Ou Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 9 mars 2016. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia et Michel Joseph. Tout d'abord, les titres.
Au Niger, l'opposition suspend sa participation au processus électoral, alors que s'ouvrait hier la campagne pour le second tour de la présidentielle.
Sénégal, 27 millions d'euros de biens appartenant à Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, à ce jour restitué à son pays.
Sahara occidentale, Rabat accuse le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de dérapage lors d'une visite dans la région.
Tunis dit avoir tué mardi soir 5 terroristes dans le cadre des opérations sécuritaires menées à Ben Gherdan.
Washington tente de déterminer si Omar le Tchétchène a été tué la semaine dernière dans des frappes aériennes de la coalition contre le groupe État islamique en Syrie.
Surprise dans les primaires d'hier aux États-Unis, côté démocrate. Ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au Niger, ouverture hier de la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle doit opposer le président sortant Issoufou Mahamadou ou à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, actuellement en prison, pour une affaire de trafic de bébés. Mais surprise, l'opposition, dont M. Ama Amadou est le candidat, vient d'annoncer la suspension de sa participation au processus électoral. Raison invoquée, l'irrégularité de la convocation du corps électoral par le président sortant. Écoutons Seni Oumarou, président du MNSD Nassara, parti d'opposition.
L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016, après une analyse du décret convoquant le collège électoral, qui s'appuie sur un arrêt de la Cour constitutionnelle non publié, fait le constat suivant. Il n'y a pas eu de proclamation officielle en audience solennelle de la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Les délais de recours n'ont pas été respectés. Le décret de convocation a été pris en violation flagrante de la même loi. La durée de la campagne électorale du deuxième tour a été réduite de manière unilatérale de 21 à 10 jours. Rupture d'égalité entre les deux candidats. Le candidat de la COPA étant injustement privé de sa liberté en violation des standards internationaux d'élection libre, équitable et démocratique. Par conséquent, l'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 décide de suspendre sa participation au processus électoral. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. Demande aux députés nationaux, militants des partis membres de la COPA, de cesser toute activité au sein de l'Assemblée nationale. La COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seuls responsables de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger.
C'était Seni Oumarou, président du MNSD Nassara, parti d'opposition nigérien.
27 millions d'euros de biens appartenant à l'ancien ministre sénégalais Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, ont été à ce jour restitués au Sénégal. Karim Wade est condamné à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Eric Manirakiza.
2 sociétés sénégalaises spécialisées dans les services aéroportuaires et 6 appartements au Sénégal dans un complexe de luxe ont été confisqués, a déclaré Antoine Diomé, agent judiciaire de l'État sénégalais. Monsieur Diomé a aussi précisé que ces saisies représentent 27 millions d'euros. Ce n'est pas tout. 24 comptes bancaires à Monaco, totalisant 11 millions d'euros, ont été bloqués et d'autres biens font l'objet d'une procédure de saisie, dont 2 appartements dans le 16e arrondissement de Paris. Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, a été condamné en mars dernier par la justice sénégalaise à 6 ans de prison et plus de 210 millions d'euros d'amende. Il est accusé d'avoir illégalement acquis un patrimoine de 178 millions d'euros, ce qu'il a toujours nié. En début février, ses avocats ont déposé plainte à Paris pour dénoncer sa détention arbitraire.
De leur côté, le Nigeria et la Suisse ont annoncé hier la signature d'une lettre d'intention pour restituer au Nigeria 321 millions de dollars détournés par l'ancien dictateur Sani Abacha. Le point, Nani Talani.
L'accord pour la restitution des fonds a été signé à Abuja entre le vice-président Yemi Osinbajo et le chef de la diplomatie suisse Didier Burkhalter. Cette restitution se fera avec un monitoring de la Banque mondiale pour que l'argent puisse être utilisé pour soutenir des programmes sociaux en faveur de la population nigériane. Sani Abacha, au pouvoir de 1993 à sa mort en 1998, est accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars de la Banque centrale nigériane, ce que les États-Unis avaient qualifié d'acte effronté de kleptocrate. Les 321 millions de dollars avaient été déposés au Luxembourg, puis confisqués par un tribunal à Genève en décembre 2014. Didier Burkhalter a rappelé que la Suisse a déjà restitué des fonds à Bacha, dont 720 millions de dollars rendus il y a 10 ans au Nigeria.
Le gouvernement marocain a accusé mardi le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, d'avoir commis des dérapages lors d'une visite dans la région pour relancer les pourparlers entre Rabat et le Front Polisario sur le Sahara occidental. Le gouvernement marocain relève avec une grande stupéfaction les dérapages verbaux, les faits accomplis et les gestes de complaisance injustifiés de M. Ban lors de sa visite, dans un communiqué cité par l'agence de presse officielle MAP.
Les autorités tunisiennes ont annoncé avoir tué mardi soir 5 terroristes dans le cadre des opérations sécuritaires menées à Ben Gherdan, au lendemain d'attaques djihadistes sans précédent dans cette région frontalière de la Libye. Quelques heures plus tôt, Tunis avait affirmé avoir remporté une bataille en repoussant ces attaques sanglantes tout en promettant une évaluation approfondie sur d'éventuelles défaillances.
La justice algérienne a condamné hier à 6 mois de prison, dont 3 mois ferme, un prédicateur salafiste qui avait demandé l'exécution de l'écrivain journaliste Kamel Daoud pour apostasie. John Lyndon.
Le journaliste et écrivain Kamel Daoud avait déposé une plainte pour menace de mort contre Abdel Fadah Amadash Zirawi. L'imam salafiste avait appelé en décembre 2014 sur sa page Facebook les autorités à le condamner à mort et à l'exécuter en public. Le chroniqueur au quotidien d'Oran avait critiqué le rapport des musulmans à leur religion. L'imam Zirawi, qui soutient l'interdiction stricte de l'alcool et le port du maillot de bain sur les plages, avait estimé que c'est une guerre déclarée contre les valeurs de l'islam. Il avait jugé coupable d'apostasie, passible de la peine de mort. Devant le tribunal de Rang, où il s'était présenté seul le 1er mars, l'imam Zirawi avait maintenu ses propos. Sa condamnation est sans précédent selon maître Khaled Bourayou, un avocat qui a défendu de nombreux confrères ces 20 dernières années. Le syndicat national des journalistes algériens s'est réjoui d'une excellente décision, même s'il souhaitait une peine plus sévère.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Présidentielle américaine, surprise hier soir dans les primaires du Michigan où le sénateur Bernie Sanders a battu la favorite chez les démocrates, Hillary Clinton, l'ancienne secrétaire d'État américaine. Cette dernière a en revanche gagné sans problème dans le Mississippi. Côté républicain, aucun problème pour l'homme d'affaires Donald Trump, grand vainqueur dans le Michigan comme dans le Mississippi. Une grande campagne a été lancée récemment par des leaders de son parti qui déplorent son côté imprévisible, je cite, et que ça inquiète et qui prédit sa défaite en novembre face à Hillary Clinton, la favorite chez les démocrates.
Les États-Unis essaient de déterminer si un raid aérien de la coalition vendredi dernier en Syrie a permis de tuer un important leader du groupe État islamique. Selon le porte-parole du Pentagone, Peter Cook, le raid qui a eu lieu près de la localité d'Al-Shadadi, ciblée Takran Batirashvili, alias Abu Omar al-Shishani ou Omar le Tchétchène. Et c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La reprise des discussions indirectes était annoncée pour le jeudi 10 mars, mais les délégations de l'opposition et du régime de Damas ont prévu d'arriver à Genève au cours du week-end prochain. Staffane de Mistura, l'émissaire de l'ONU, dit qu'il sera prêt à recevoir tous les participants dès aujourd'hui, mercredi. Ces négociations entre régime syrien et l'opposition se dérouleront dans des salles séparées et non pas autour d'une même table. Riyad Hijab, coordinateur du Haut Comité des négociations qui rassemble l'opposition syrienne soutenue par Riyad, a déclaré qu'une première petite délégation ira à Genève pour rencontrer le groupe de travail qui surveille la trêve. Un autre groupe de travail sur l'aide humanitaire doit également se réunir mercredi. Les précédentes tentatives pour mettre fin au conflit syrien avaient échoué à cause de la poursuite des combats meurtriers sur le terrain. Depuis la conclusion de l'accord de cessation des hostilités, parrainé le 27 février par Moscou et Washington, la trêve semble tenir malgré quelques incidents.
Vous avez rétabli de vous-même. Eh bien, c'était Maëlys Hegel qui nous parlait de l'ONU. L'ONU qui a déclaré qu'une nouvelle série de discussions pour mettre fin au conflit en Syrie commencera à Genève au plus tard le 14 mars. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le président du Fonds international de développement agricole, Kanayo Mwanze, a déclaré mercredi que 58% des bénéficiaires des projets en Afrique de l'Ouest et centrale sont des femmes, rapporte l'APA. Il y a 50 projets en cours dans 23 pays, a-t-il précisé, à l'issue d'une visite des unités de production de son partenaire, Africa Rice, en Côte d'Ivoire. Bien que les femmes jouent un rôle de premier plan dans l'agriculture et les économies rurales, elles disposent d'un accès plus limité que les hommes aux services, aux marchés et aux biens, y compris la terre, a-t-il déclaré. Pour la journée du 8 mars, la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan a déplacé son centre de gravité à Dakar, rapporte Financial Afrique, précisant que l'antenne au Sénégal a fait tinter la cloche de l'égalité des genres à l'unisson avec 34 autres places financières qui participaient à l'appel d'ONU Femmes en faveur de la parité dans le monde de la finance. Et la première édition des journées BRVM au Togo aura lieu le 15 mars à Lomé. Cette initiative de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA, dédiée aux acteurs du marché financier régional, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la culture boursière. L'objectif est de mieux faire connaître l'environnement de la Bourse ainsi que les opportunités qu'elle offre aux décideurs, chefs d'entreprise et particuliers.
À présent, les sports avec Eric Manirakiza. En football, Ligue des champions, Ronaldo expédie en quart le Real de Zidane.
Tout à fait, Idrissa, mission donc accomplie pour Zinedine Zidane. Son Real Madrid a dompté l'AS Rome 2-0 hier soir en huitième retour de Ligue des champions grâce à Cristiano Ronaldo, buteur, passeur et déterminant pour expédier le club merengue en quart après avoir déjà marqué à l'aller 2-0.
Ligue des champions buteur, Ronaldo toujours plus haut.
Le but d'hier soir du Portugais, son 13e but en Ligue des champions cette saison. Sur l'ensemble de cette compétition depuis sa création en 1992-93, Cristiano Ronaldo a atteint le chiffre rond de 90 buts, soit 9 de plus que son grand rival du FC Barcelone, Lionel Messi. Ronaldo semble également lancé pour être le premier joueur à franchir un jour la barre mythique des 100 buts.
Chelsea, Terry a déclaré forfait contre le Paris Saint-Germain.
Le défenseur et capitaine de Chelsea, John Terry, a déclaré sur son compte Instagram qu'il est dégoûté de manquer le match ce soir contre le PSG. C'est tellement frustrant de manquer un match, mais ces grosses soirées sont incroyables. Et cela blesse n'importe quel joueur de ne pas en être, a-t-il mentionné. J'ai tout tenté pour être opérationnel. Mais parfois, il faut laisser la blessure se remettre et j'espère être bientôt de retour.
JO 2024, le comité de candidature à l'organisation des Jeux Olympiques 2024 à Los Angeles a dévoilé hier sa commission des athlètes.
Elle est composée au total de 53 athlètes en activité ou à la retraite. Il s'agit entre autres de la légende de l'athlétisme Carl Lewis et des anciennes gloires du tennis André Agassi et Steffi Graf. Los Angeles, qui a organisé les JO en 1932 et 1984, est en concurrence avec Budapest, Paris et Rome. Le nom de la ville hôte sera dévoilé par le Comité international olympique en septembre 2017 à Lima.
Merci Eric Manirakiza. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Lutte contre Boko Haram au Nigeria, le régime de Muhammadu Buhari affirme que la menace du groupe terroriste a beaucoup diminué. Mais jusque dans la capitale nigériane, on ressent les effets néfastes des djihadistes. Abuja abrite des camps de déplacés improvisés par ceux qui fuient Boko Haram. C'est là que s'est rendu l'envoyé spécial de VOA Afrique au Nigeria. Voici le reportage de Nicolas Pinault.
La musique résonne dans le camp de déplacés de New Kouchogoro. Ce jour-là, on célèbre un mariage. Des sourires illuminent les visages. Un moment de bonheur, pourtant le quotidien des habitants de ce camp improvisé est loin d'être facile. 1125 personnes s'entassent depuis 2 ans ici. Nous sommes à quelques kilomètres seulement du centre-ville d'Abuja, la capitale nigériane. La plupart des habitants viennent des états de Borno ou d'Adamawa, là où Boko Haram fait régner la terreur depuis des années. Exemple avec Lami John, une jeune femme qui a été kidnappée pendant 2 semaines par les djihadistes du côté de Gwoza. Elle montre une cicatrice au-dessus de sa cheville droite.
Quand ils m'ont kidnappée, ils m'ont demandé de les suivre et j'ai refusé. Donc pour me punir, ils m'ont tiré dessus, dans la jambe. Aujourd'hui encore, parfois, ça me fait mal.
8 camps comme celui-ci existent en périphérie d'Abuja. Les autorités n'interviennent pas vraiment. Ce sont les associations caritatives qui soulagent les déplacés. Alhaji Ousmane Adamou est le chef du camp de New Kouchogoro.
Des gens viennent nous voir tous les jours pour nous aider, pour nous donner de la nourriture et du matériel. Ce sont des ONG. On en a reçu du gouvernement, mais c'est insuffisant. Jusqu'à présent, seulement 2 fois en 2 ans.
La solidarité existe, mais les habitants du camp vivent dans une grande précarité, notamment en matière de soins médicaux. Moussa Haruna a fui l'état de Borno State il y a 2 ans après une attaque. Ce père de famille de 32 ans s'inquiète pour la santé de son enfant.
Nous souffrons parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter ce que l'on veut. Quand on est malade, il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Même mon bébé qui a 1 an est malade, car je n'ai pas d'argent. Ce n'est pas bon. Il faut survivre.
Tous les déplacés de New Kouchogoro espèrent un jour rentrer chez eux si la paix est de retour dans leur village. Nicolas Pinault, Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
200 jeunes qui appartenaient à des groupes djihadistes dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, se sont engagés à quitter ces mouvements. L'opération de sensibilisation a été menée par plusieurs notables locaux et des imams. Combien de jeunes ont abandonné les rangs des djihadistes? Eh bien, Idriss Fall a joint M. Ama Cissé, maire de Togere Koikotia, dans la région de Mopti.
Pour le moment, on ne peut pas évaluer puisque ceux qu'on a rencontrés sont en train de rencontrer les autres. C'est un processus qui continue. Certains ont accepté déjà, mais qui ne sont pas encore là, qui sont en train de sensibiliser les autres qui n'ont pas accepté. Donc, au fur et à mesure, ça augmente, mais on n'a pas un chiffre pour le moment.
Quand vous parlez de processus, vous avez commencé ce travail?
Le processus même a commencé depuis les accords d'Alger. Parallèlement, nous avons commencé, donc depuis ce temps, on est en train de sensibiliser les jeunes pour qu'ils reviennent. C'est un peu long. Depuis les accords d'Alger que nous avons commencé.
Comment est-ce que vous arrivez à identifier ces jeunes?
Ce n'est pas identifié puisque ce sont des gens de nos zones. Ils sont là-bas, ils ne sont pas dans les villages. Dès qu'on a rencontré les premiers, maintenant ce sont les autres, maintenant qu'ils sont en train de les identifier, nous on ne les connaît pas. Ce sont eux qui sont en train de le faire à notre place, après avoir accepté. Donc eux-mêmes, ils voient les autres. Ce sont eux qui sont là-bas, ils se connaissent tous entre eux.
Et pour la plupart, c'était des jeunes qui faisaient partie du Front de Libération du Massina.
Pas forcément du Front de Libération du Massina, le Front de Libération du Massina, moi, il n'y a pas longtemps que nous avons entendu ça, mais les gens ont commencé à les ramener bien alors. On ne sait même pas ce front-là comment il est. Ce que nous savons, tous les jeunes qui sont partis, il y a certains qui sont du Mouchao, certains qui étaient des MLA, certains qui étaient des choses, ils étaient un peu partout. Maintenant, ils peuvent être du mouvement de libération, ils peuvent ne pas être du mouvement de libération, pour nous, on ne fait pas la différence. Nous, ce sont des jeunes de chez nous qui, à un moment, ont pris des armes pour des raisons. Eux-mêmes, ils le savent. Maintenant, il y a la paix qui va revenir, il faut essayer de les ramener. Nous, on ne sait pas qu'ils ont de Amadou Fouva ou Bendour, comme les gens le disent. Nous, tous ceux qui ont pris les armes, on veut qu'ils déposent.
Maintenant, les jeunes, ils reviennent. Est-ce qu'on peut leur garantir, ne serait-ce que trouver du travail? Parce que beaucoup de ces jeunes aussi, avant, n'avaient pas de travail.
Mais ces jeunes, quand ils reviennent, ils vont directement intégrer la plateforme ou bien la SEMA. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils rejoignent la plateforme ou le SEMA qui est déjà signataire des accords d'Alger. Donc, immédiatement, ils vont avoir les mêmes avantages, la même chose que les autres.
Et il y a beaucoup d'imams de la région, des élus locaux qui participent à cette opération de sensibilisation.
Il y a beaucoup de personnes de bonne volonté. Il y a les élus, il y a des imams, comme vous le dites, mais plus ou moins anonymes et qui nous travaillent ensemble. Chacun connaît une localité où il peut dénicher certains. Ils parlent, ils les rencontrent, ils leur parlent posément, sans armes, sans rien. Ils sont nombreux dans la zone et à Bamako ici. Il y a beaucoup de bonne volonté qui sont là pour ramener ces jeunes à déposer les armes.
C'était M. Ama Cissé, maire de Togere Kyota, région de Mopti, dans le centre du Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Pour revenir sur la Journée internationale des droits de la femme, célébrée hier, au Congo-Brazzaville, la journée du 8 mars n'a pas été de tout repos pour les 9 candidats à l'élection présidentielle du 20 mars. Claudine Mounari, l'unique femme candidate à ce scrutin, a profité de cette occasion pour rencontrer ses militants dans un quartier populaire de Brazzaville. Nombreux sont ceux qui pensent que le tour des femmes est arrivé pour diriger le Congo. De Brazzaville, Nguelangosu.
Claudine Mounari, l'unique femme à la présidentielle du 20 mars, est allée hier le 8 mars à l'encontre de ses militants de Mfilou, un quartier de sud de Brazzaville. Elle appelait les femmes à la soutenir, à voter pour elle.
Quand les gens disent oh « ouais, attention, vous allez provoquer des guerres au Congo », je dis « mais quelle absurdité !» Quand les gens sont unis, est-ce qu'ils peuvent se battre?
Non.
Alors qu'on ne vienne pas nous amuser, on nous a trop amusés. Moi je dis mes enfants, on a sifflé la fin de la récré. Maintenant qu'on a sifflé la fin des mensonges, on va aller dans la vérité. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et un de mes amis m'a appelé et il m'a dit, Madame Hilary, félicitations pour votre candidature, mais en tant que femme, invitez vos consoeurs de passer de la revendication à l'action. Passez à l'action, maintenant.
Les populations qui sont venues l'écouter malgré ce chaud soleil du 8 mars semblent convaincues qu'une femme peut enfin accéder au pouvoir au Congo.
Ouais, je suis très convaincu qu'une femme peut perdre le pouvoir parce qu'on a vu en Allemagne Angela Merkel, on a vu Ellen Johnson. Donc c'est pas un miracle, c'est pas pour une première fois. Pour moi, je suis très convaincu. Vraiment, s'il y a la transparence totale, il peut faire face. Là où elle est là, elle a déjà l'idée que les jeunes aujourd'hui dans la société congolaise ont des projets. Donc quitte à elle, tout le monde est validé ces projets-là.
Oui, tout est possible. Pourquoi seulement les hommes? Pourquoi pas les femmes? Nous sommes là pour soutenir Madame. Pas de souci, on a toujours le moral. Ça ira.
On est trop fatigué, on ne veut plus voir Sassou Nguesso. Là, on est pour soutenir la candidate Claudine Mounari. Je le fais pour la nation. On veut le changement du Congo. On nous donne de l'argent. On veut plus de l'argent.
La bataille est loin d'être gagnée, bien que les femmes représentent 52% de la population congolaise. Mais Claudine Mounari, elle, ne fait pas figure de favorite parmi les 9 candidats en lice. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Il nous faut aussi signaler que, côté législatif, le nombre de femmes parlementaires n'a augmenté que de 0,5% en 2015, et ce pour la deuxième année consécutive selon le rapport annuel de l'Union interparlementaire publié à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Nathalie Barge a joint à Genève Karine Jabré, chef de programme sur l'égalité des femmes ou l'égalité des genres à l'UIP.
0,5 point de pourcentage, c'est extrêmement moyen. Et si nous tenons à atteindre l'objectif de la parité en 2030, à ce rythme-là, nous n'y arriverons pas.
Alors, comment vous l'expliquez, cette faible progression ?
Je crois qu'on arrive peut-être à un plateau ou un essoufflement et il faut un renouveau en termes de mesures et d'engagement politique pour se dire que, bon, on a quand même expérimenté certaines mesures, les quotas, les initiatives de soutien, etc. Mais peut-être qu'on doit être un peu plus créatif et innovatif pour essayer d'ouvrir encore plus l'espace politique et changer les mentalités pour ouvrir la voie aux femmes. Les quotas, on l'a vu, ont vraiment permis de rompre certaines pratiques et d'ouvrir une porte pour les femmes. Cela dit, ils ne sont pas suffisants. Ils sont nécessaires, mais pas suffisants pour vraiment atteindre cette parité. Et je crois que la question de changer la culture politique, changer les pratiques au sein des partis politiques demeure au centre de tout effort, de tout progrès.
Vous notez par contre que le nombre de présidentes de parlement a atteint un niveau sans précédent.
Absolument, et ça c'est peut-être le point positif pour l'année 2015. On est arrivé à presque 18% de présidentes de parlement. On n'avait jamais atteint un tel niveau. Et pour nous, c'est un point très positif parce qu'il faut changer l'image des plus hautes sphères de la politique et montrer et démontrer que les femmes ont toutes les capacités et les mêmes droits et devraient au même titre occuper ces postes-là comme les hommes. Le progrès sont importants. On a vu plusieurs parlements pour la première fois élire des femmes présidentes au Népal, en Namibie et aussi dans les Émirats arabes unis. Donc là où on a pour la première fois dans un pays arabe une femme présidente de parlement.
Alors et qu'en est-il de l'Afrique ?
Il y a une augmentation en Afrique de 0,7 point de pourcentage et on arrive en fait à une moyenne de 23,2% de femmes au Parlement. Donc là en fait c'est une bonne progression et surtout liée encore une fois à des initiatives liées aux quotas. On a retrouvé ça en Éthiopie ou en Tanzanie où on a donc des sièges réservés pour les femmes. Il y a d'autres initiatives qui étaient plus intéressantes aussi par exemple au Bénin où on a essayé de lancer des campagnes de sensibilisation pour encourager les jeunes femmes à prendre part au débat politique, de se présenter ou même d'aller voter. Ça, c'est intéressant d'aller au-delà juste la question de la participation en termes de candidates, mais aussi de mobiliser cette jeunesse et surtout les femmes jeunes pour que, dès le départ, elles se disent « mais j'ai ma place ».
Karine Jabri, chef de programme sur l'égalité des genres à l'UIP. Pour écouter...
Dans Washington Forum cette semaine, on braque les projecteurs sur les femmes. Au-delà de la Journée internationale des droits des femmes, c'est l'occasion de faire un bilan sur les acquis, les revendications et les tabous. Où en est-on de la parité, de l'accès aux soins et à l'éducation, ou encore de la prise en compte des violences faites aux femmes ? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Et retrouvez-moi dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comedy, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Grand merci à toute la rédaction. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Idrissa Seloudia, Washington.